Alors, Raphaël, mise à jour du dossier du juge Brett Kavanaugh, qui est aspirant, bien sûr, à devenir juge de la Cour suprême. Comment la Maison-Blanche avait commencé déjà à sortir un peu la tête de l'eau avec le cas de Brett Kavanaugh, avant de replonger avec le mur qui refait surface?
Ou plutôt, comme tu l'as dit avant la pause, Paul, les murs. Donc, on y revient dans un instant, mais d'abord et avant tout, effectivement, prenons quand même quelques minutes pour parler de la situation Kavanaugh. On s'en est parlé, toi et moi, toute la semaine, tous les jours de la semaine, c'est énorme. Et là, il y a encore des développements. C'est-à-dire que au début de la semaine, la Maison-Blanche et Brett Kavanaugh, évidemment par extension, étaient ébranlés. On remettait même en question la possibilité, la probabilité que Kavanaugh se voit confirmé par le Sénat suite aux allégations auxquelles il était confronté. Or, ce qui est sorti depuis, c'est que tu as eu la sénatrice démocrate numéro un, celle qui est la plus senior, la plus importante au sein du comité du Sénat chargé de se pencher sur la nomination de Kavanaugh, qui est allée déclarer à la télévision qu'elle-même n'était pas sûre si Christine Ford, l'accusatrice en question, disait toute la vérité. À ça s'est ajoutée une ex-collègue de classe de Mme Ford qui avait initialement dit que l'événement allégué avait bel et bien eu lieu, qui est revenue sur ses paroles en déclarant qu'en fait, elle n'avait aucune idée de si l'événement, dans les faits, avait bel et bien eu lieu. Et comme ce n'était pas assez, la principale intéressée, Mme Ford, qui avait elle-même initialement demandé de venir témoigner, a reculé depuis le début de la semaine en exigeant que le FBI mène une enquête complète sur Kavanaugh avant qu'elle n'accepte de venir témoigner devant le Sénat. Donc, ça a été, je dirais, une cascade de mauvaises nouvelles pour les démocrates et carrément de cafouillage par rapport à comment ils ont géré une arme politique qu'ils brandissaient face à Kavanaugh. Donc, je dirais que le vent semblait vraiment se renverser en la faveur de la Maison-Blanche de Kavanaugh, mais il y a quand même une petite nuance que je te donne aujourd'hui, et ça vient de sortir, et c'est que Mme Ford, par l'entremise de son avocate, a envoyé une lettre au Sénat disant qu'elle était maintenant ouverte à témoigner, même si le FBI ne menait pas d'enquête, même si sa préférence demeure que le FBI mène une enquête avant tout témoignage. Au final, c'est possible qu'il y ait témoignage la semaine prochaine.
Mais elle se dit prête à témoigner, Raphaël, mais ses avocats disent que ce n'est pas possible.
Ben, exact. Et c'est pour ça qu'on baigne encore dans la confusion et qu'au final, la main de Brett Kavanaugh et la main de la Maison-Blanche politiquement sont certainement beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient il y a à peine 72 heures quand toi et moi, on a commencé à se parler de ce dossier-là.
Alors, l'autre dossier très chaud aujourd'hui, Donald Trump menace de faire dérailler un accord budgétaire qui a été passé entre les républicains et les démocrates et qui permettrait d'éviter la paralysie des administrations fédérales américaines, le fameux « shutdown ». Mais pourquoi? Parce que cet accord budgétaire ne prévoit pas de fonds pour la construction de son mur.
Mais exactement. Donc, d'un côté, la Maison-Blanche qui est en train de sortir de peine et misère la tête de l'eau dans le dossier Kavanaugh et en même temps, la journée même, le président qui replonge son administration, sa propre équipe dans la controverse de façon totalement gratuite. Le Sénat qui s'entend sur une base bipartisane, 93 sénateurs sur 100 qui votent en faveur d'une entente budgétaire qui viendrait financer différents départements du gouvernement fédéral américain, qui viendrait également augmenter les dépenses militaires jusqu'au mois de décembre, mais qui n'inclut pas de financement pour le fameux mur à la frontière mexicaine. Or, ça, pour Donald Trump, ça ne passe pas la rampe, même si, on le rappelle, le fameux mur devait être construit à la base avec les fonds du Mexique. C'était sa promesse électorale qu'il a répétée à combien de reprises. Donc, l'objet de contention et ce qui rend beaucoup de républicains très nerveux à Washington présentement, surtout au Congrès, c'est que le président mette en exécution sa menace de faire fermer le gouvernement fédéral si jamais le Congrès n'accepte pas de financer son mur. Ce que le Congrès, je te garantis, n'acceptera pas de faire d'ici les élections de mi-mandat parce que le risque, selon les leaders républicains, c'est que le gouvernement fédéral se voit contraint de fermer suite à la décision du président et que le Parti républicain, en étant aux commandes à la fois du Sénat, de la Chambre et de la Maison-Blanche, se voit blâmé par l'électorat à peine à quelques semaines du vote, évidemment, des élections de mi-mandat. Donc, très contentieux. Et Paul, et on va se laisser avec ça, comme si ce n'était pas assez, on parle d'un mur, celui à la frontière mexicaine. On rapporte là aussi maintenant que dans un tout autre dossier, Donald Trump aurait suggéré au ministre espagnol des Affaires étrangères lors d'une récente rencontre que l'Espagne, qui elle-même est confrontée à un certain problème d'immigration illégale, là, l'Espagne, donc, devrait confronter ce problème-là en construisant, et j'ai de la misère pratiquement à le dire sans rire, oui. en construisant un mur sur le long du désert du Sahara.
Il aurait besoin d'un cours de géographie, M. Trump.
Ben, c'est ce que le ministre en question, le ministre espagnol, a suggéré en lui demandant, au président Trump s'il savait, s'il connaissait la longueur que prendrait, qu'exigerait un tel mur. Chose à laquelle le président américain aurait répondu, et je le cite pratiquement verbatim, « Écoutez, ça ne peut pas être plus long que notre frontière avec le Mexique. »
Oh ben voyons donc! Ben, le Sahara, d'est en ouest, le Sahara, c'est 4800 kilomètres.
Exactement. Et donc, c'est évidemment de façon très considérable, beaucoup plus long que la frontière avec le Mexique. Et dans oui. tous les cas, même s'il y avait, et on est très, très loin de là pour l'instant, là, comme je le disais tantôt, mais même s'il y avait au final la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, ça n'occuperait jamais de toute façon la totalité de la frontière qui traverse les qui sépare pardon les deux pays.
Oui.
Et ça, Donald Trump lui-même le dit. Donc,
exactement.
La comparaison entre les deux est complètement absurde.
Et complètement boiteuse. Et il faudrait lui rappeler que construire dans le sable, c'est plus compliqué.
Mais encore une fois, Paul, on a affaire à un homme qui fait les choses autrement. Peut-être que mais, M. Trump aurait une
je
façon.
Sais, mais le ministre des Affaires étrangères espagnol n'en revenait pas. Il dit, vous êtes sérieux quand vous dites construisez comme ça un mur dans le Sahara? Et là, on lui a rappelé gentiment que c'était près de 5000 kilomètres l'étendue du désert du Sahara, dans le nord de l'Afrique.
Encore une fois, Paul, on se laisse sur le même mot,
et oui.
surréel.
Surréaliste. Et à demain, Raphaël, merci beaucoup.
À demain.
Au retour, est-il possible de nourrir une famille de 4 personnes pour $75 par semaine?